religions du monde, Geneviève Delru.
Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous recevons dans cette deuxième partie de Religions du monde Florence Quentin et Michael Langlois pour commenter le dossier du monde des religions sur les écrits apocryphes. Qui sont ces textes exclus du canon biblique, juif ou chrétien? Pourquoi n'ont-ils pas été retenus? Et quel éclairage apporte-t-il dans la compréhension du judaïsme et du christianisme? Dans la lumière des écrits apocryphes, c'est le titre de ce dossier dense. Un dossier qui revisite ces écrits méconnus, le livre d'Enoch sur l'Apocalypse, les évangiles selon Thomas, Philippe, Marie, pour ne citer que. Des textes qui nous donnent des éléments nouveaux et qui viennent compléter, en quelque sorte, les évangiles canoniques de Matthieu, Marc, Luc et Jean, notamment pour la période de l'enfance de Jésus. Michael Langlois, maître de conférence à l'Université de Strasbourg, est spécialiste de littérature hébraïque et araméenne. Il a largement participé à la rédaction de ce dossier sur les apocryphes, piloté par Florence Quentin, écrivain et rédactrice en chef au Monde des religions. Alors, pourquoi ce choix des écrits apocryphes? Un mot qui déjà suscite imagination et fantasme. Florence Quentin.
Oui, tout à fait, parce que justement, c'est le terme apocryphe qui veut dire caché, qui suscite dans le grand public beaucoup de questions et beaucoup, à tort, beaucoup d'interprétations ésotériques. On a voulu montrer que ces écrits apocryphes, qu'ils soient juifs ou chrétiens, on a insisté aussi sur les écrits apocryphes juifs, parce qu'on parle beaucoup des évangiles apocryphes, donc chrétiens, que toute cette littérature était en réalité cachée, parce qu'elle voulait dire révélation dans certains cas, mais qu'elle ne cachait pas de messages ésotériques que certains groupes récupèrent comme effectivement un message crypté qu'on leur aurait caché.
Michael Langlois, pourquoi avoir participé à ce dossier sur les écrits apocryphes? Vous estimez également qu'il est indispensable de les mettre en lumière parce qu'ils nous apportent de la lumière?
Oui, absolument. Moi, j'enseigne essentiellement la littérature biblique à l'Université de Strasbourg et je vois très mal comment on pourrait étudier la Bible sans étudier les apocryphes. Alors, ça semble un peu contradictoire puisque précisément les apocryphes, ce sont les livres qui ont été exclus du canon biblique, ce qu'on a rejeté, ce qu'on a choisi de ne pas mettre dans la Bible. Alors si maintenant on a besoin de ces livres pour comprendre la Bible, mais où va-t-on? Pourtant, l'histoire nous montre bien que ces livres étaient connus, qu'ils étaient utilisés, qu'ils étaient même cités par les auteurs bibliques eux-mêmes. Donc ça montre qu'ils faisaient partie du patrimoine culturel, du répertoire littéraire des auteurs bibliques. Si on ne connaît pas les apocryphes, on ne peut pas bien comprendre la Bible.
Mais alors quand même, la question qui se pose, malgré tout, c'est pourquoi les avoir exclus du canon biblique? Parce qu'ils étaient dérangeants?
Alors, oui, certainement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a fait le choix de les exclure. Alors, les raisons, elles peuvent varier d'un écrit à l'autre. C'est vrai qu'on les a qualifiés d'apocryphes, c'est-à-dire de cachés, littéralement. Apocryphe, en grec, ça veut dire caché, secret. Et on se dit, tiens, comment se fait-il que ces livres ont été tenus secrets? Ils ont été cachés. Et puis, par qui, d'abord? Si on se demande, finalement, qui les a cachés? Est-ce que ce sont les auteurs de ces livres eux-mêmes qui les auraient cachés, précisément parce qu'on ne voulait pas qu'ils soient accessibles à tout le monde? Est-ce que ce sont, au contraire, les autorités ecclésiastiques qui les ont cachés parce qu'ils ne voulaient pas que les chrétiens, le chrétien lambda, pourrait-on dire, puissent lire ou avoir accès à cette connaissance? En fait, je pense qu'il faut distinguer différents groupes de livres apocryphes dans ces cas-là.
Mais effectivement, l'imagination, là, est quand même largement suscitée, si je peux dire. Florence Quentin.
Oui, tout à fait. On est là en pleine... À la fois, on suscite l'imagination et on comble les lacunes de l'Évangile, les lacunes des textes anciens. On en apprend beaucoup par ces écrits apocryphes.
Oui.
Oui, non, je pensais qu'on pouvait prendre juste un exemple d'ouvrage apocryphe, le livre d'Enoch, par exemple. Eh bien, il est cité dans le Nouveau Testament. L'épître de Jude cite le livre d'Enoch. Il cite Enoch comme n'importe lequel des prophètes, Jérémie, Isaïe, n'importe quel autre prophète. Manifestement, l'auteur de l'épître accorde une autorité à Enoch. Par ailleurs, quand on ouvre le livre d'Enoch, on le lit, on découvre le Messie, fils de l'homme, qui préside au jugement dernier. Enfin, c'est difficile, quand on est chrétien, de ne pas voir le parallèle avec Jésus. Et on se dit, et pourtant ce livre a été exclu de la Bible. Et c'est pourtant une sorte de chaînon manquant, pourrait-on dire, entre la pensée messianique dans le judaïsme, à l'époque de Jésus, et la rédaction du Nouveau Testament.
Alors, ce que vous soulignez dans ce dossier, Florence Quentin et Michael Langlois, c'est que c'est au IVe siècle, hein, qu'on établit finalement ce qui est, alors j'allais dire licite et illicite, ou ce qui est canon et ce qui n'est pas.
Oui, absolument. Bah, c'est-à-dire que le premier emploi même du terme apocryphe pour désigner des livres, ce sont des livres apocryphes. La première attestation de cet usage de ce terme, c'est au IVe siècle. Et donc c'est Athanase qui l'emploie, un des pères de l'Église, et on se rend compte que c'est à partir du IVe siècle que effectivement commencent à circuler des listes complètes de livres dont on va estimer ceux-là il faut les garder, ceux-là il faut les exclure. Parfois on a une catégorie intermédiaire en disant ceux-là ils sont un petit peu discutés, débattus, on ne sait pas encore trop où il faut les mettre. Et cette discussion, elle ne prend place qu'au IVe siècle de notre ère.
Pourquoi ?
Alors pourquoi il y a des circonstances historiques et même, oserais-je dire, politique. Au IVe siècle, l'empereur romain, Constantin, se convertit au christianisme. Dès lors, le christianisme devient une religion officielle, une religion d'État, une religion majoritaire. Et à ce moment-là, forcément, il faut mettre de l'ordre. Il faut faire le tri, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et à ce moment-là, c'est là qu'on commence à avoir des conciles. En 325, il y a le premier concile à Nicée, on continue, etc. Il y aura toute une période où on va établir la doctrine chrétienne.
Ça qui est Dieu, sa nature,
exactement.
Divine, enfin Jésus,
oui.
Sa nature,
le Christ,
divine.
La Trinité, voilà. Toutes ces grandes questions fondamentales du christianisme vont être débattues, on va essayer de trancher toutes ces questions-là, et également, bien sûr, la question des livres, les écritures sur lesquelles on fonde la doctrine chrétienne.
Alors, pour le christianisme, on retiendra donc qu'il y a 4 évangiles, hein, les évangiles donc de Matthieu, Matthieu, Marc, Luc, Jean, et puis voilà, ce sont donc ces 4 évangiles qui sont retenus, mais on sait qu'il y en aura d'autres. Il y a l'évangile de Thomas, donc
oui,
ça sera
bien sûr.
Un évangile effectivement.
Même plusieurs, il y a 2 évangiles de Thomas. Enfin,
oui.
il y a une pléthore d'évangiles qui sont connus déjà à l'époque. Hein, quand on choisit de garder ces 4 évangiles-là et pas les autres, c'est pas parce qu'on n'est pas au courant de l'existence d'autres évangiles. On sait très bien qu'il y a d'autres évangiles qui circulent, mais on décide de ne retenir que ceux-là parce qu'on estime que ce sont les seuls à avoir été rédigés par des contemporains de Jésus, des gens qui ont vraiment connu Jésus en disant voilà, ceux-là on peut s'y fier, ceux-là sont fiables, ceux-là correspondent à la doctrine chrétienne orthodoxe, dirait-on, et contrairement aux autres évangiles qu'on va qualifier d'hérétiques.
Alors Florence Quentin, ces choix, finalement, on les retrouve d'ailleurs dans toute la religion. Dans toute la religion, on fait le ménage en quelque sorte. À un moment donné, ils se sont dit voilà, ce qui est licite, illicite, ce qui est canon, ce qui ne l'est pas.
Oui, comme l'a dit Michael, on le retrouve dans le judaïsme, puisqu'on parle notamment des écritures juives, mais aussi effectivement, on le retrouve dans l'islam, où il y a eu le Coran, on sait qu'il a été écrit, réécrit. Qu'est-ce qui est les hadiths qui sont attribués au prophète Mohammed, est-ce qu'ils sont authentifiés comme les siens? Est-ce qu'ils ont été écrits après? Effectivement, je pense qu'à un moment donné, on doit établir les bases des religions révélées avec des canons. Dont on exclut les textes qui ne semblent pas rentrer effectivement dans cette définition du canon.
Alors, concernant l'enfance de Jésus, ça c'est effectivement très, très important pour comprendre le christianisme et sa naissance. Que faut-il retenir des évangiles apocryphes? Que nous apprennent-ils de plus?
Les évangiles apocryphes s'intéressent. D'abord, ils nous apprennent pratiquement tout sur l'enfance de Jésus. Si vous prenez
beaucoup plus que les autres.
C'est-à-dire que si vous prenez les 4 évangiles canoniques, entre la naissance de Jésus elle-même et puis son baptême, donc le début de son ministère public, il n'y a qu'un seul évangile, celui de Luc, qui au chapitre 2 nous donne un épisode de Jésus à 12 ans dans le temple à Jérusalem, à l'occasion d'un pèlerinage à Jérusalem. C'est la seule histoire, la seule anecdote qu'on nous raconte sur l'enfance de Jésus entre sa naissance et son ministère public. Il y a évidemment un gouffre ici, un abîme, et tout le monde peut se poser des questions, mais quand même, ce Jésus enfant, comment était-il, qu'est-ce qui se passait, etc. Alors bien sûr, les évangiles apocryphes vont combler cette lacune, ils vont nous raconter plein d'histoires, des anecdotes amusantes, Jésus qui joue avec un de ses camarades, et puis il commence à s'énerver, alors il lui sèche la main, alors le père de l'enfant vient voir le père de Jésus, Joseph, en disant, mais regarde ton fils, qu'est-ce qu'il a fait? Tiens-le un peu. Alors Jésus est obligé finalement, il revient, dit bon, d'accord, ok, je guéris l'enfant, mais enfin quand même. Alors ça c'est vraiment très drôle. Évidemment, ce sont des histoires qu'on affectionne particulièrement parce que c'est quelque chose de très humain.
C'est narratif.
On peut s'identifier à cela. Donc forcément, c'est très vivant et ça intéresse.
Florence Quentin,
ça complète les récits. On parlait de lacunes. Ça complète les récits qu'on avait ou qu'on n'a pas justement sur la vie de Jésus. Et il y a quelque chose que je trouve très touchant. D'ailleurs, on voit un Jésus, comme vous le disiez, qui est un peu magicien. Il transforme des oiseaux de terre en oiseaux qu'il les fait voler. Et puis à un moment donné, il n'est pas content contre un petit camarade. Hein, par ses pouvoirs magiques. Est-ce qu'on est dans quelque chose de la narration un peu, c'est pas Harry Potter, mais il y a un petit côté comme ça quand même, hein. Il transforme un enfant, je crois qu'il le tue, ou il le terrasse, enfin, il y a quelque chose comme ça. Alors, c'est pas en disant ça, il faut pas faire ça, quoi. Et il y a aussi quelque chose que je trouve plus touchant, enfin, on voit dans ces apocryphes la naissance du culte à la Vierge, parce qu'on a des récits sur, avant la naissance de la Vierge, dont on ne sait rien dans les évangiles canoniques, on parle très peu de Marie, hein, dans les évangiles canoniques, on parle de ses parents, Joachim et Anne, qui sont des vieillards stériles, un peu comme Abraham et Sarah, et on voit qu'ils ont la grâce divine, et ils vont engendrer cette jeune Marie, qui aura un destin exceptionnel, et on voit aussi sa naissance exceptionnelle, et puis ses premières années dans le temple, où elle file, les étoffes, et son mari, Joseph, va être désigné par une sorte de miracle, on est encore dans l'ordre du miracle, de son bâton va sortir une colombe.
Alors précisément, même si on est dans l'ordre du miracle, est-ce que ces évangiles apocryphes sont plus proches du terrain, plus proches de la réalité ou pas? Parce qu'il y a toute cette part de merveilleux. Mm-hmm.
Ça dépend ce qu'on appelle la réalité,
oui.
À vrai dire.
Quelle réalité?
Quel type de réalité nous intéresse? S'il s'agit de déterminer des faits historiques, à vrai dire, l'histoire, elle nous échappe. Jésus, il y a vraisemblablement aucune attestation historique contemporaine de son existence. On cherche, il y a quelques années, il y a eu la publication d'un ossuaire qui contenait peut-être les ossements du frère de Jésus. Si cet ossuaire est authentique et si le Jésus dont il est question est bien le Jésus des évangiles, alors on aurait la première attestation archéologique de l'existence de Jésus, bien qu'indirecte, etc.
Enfin, ça paraît un peu fantasque.
Mais voilà, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il y a un historien juif du 1er siècle de notre ère qui
Flavius Joseph.
Voilà, qui fait allusion à Jésus.
Oui.
Mais en même temps, c'est dans des manuscrits tardifs, chrétiens, donc on se demande si c'est
politique.
Pas un scribe chrétien qui aurait inséré la mention de Jésus. Donc, à vrai dire, le Jésus de l'histoire, en tant que tel, il nous échappe. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est le Jésus de la foi. Le Jésus qui est perçu, la perception que des communautés ont eu de ce Jésus et ce qu'ils ont voulu dire de lui. Et c'est ce que je trouve fascinant, c'est de voir justement que on s'intéresse à Jésus enfant, on s'intéresse à Jésus adulte. Il y a quelques semaines seulement, alors évidemment, c'est apparu trop récemment pour pouvoir être intégré dans ce dossier. Mais figurez-vous qu'un fragment d'un évangile apocryphe vient de faire surface. Il serait question de l'épouse de Jésus. Alors, ça relance le débat. Jésus était-il marié, etc., etc. Alors, ce fragment n'est même pas encore publié, à vrai dire. C'est en copte et ce sera certainement publié dans les mois qui viennent. On peut encore se poser la question de l'authenticité.
Alors, précisément, dans les évangiles apocryphes, il y a celui de l'évangile selon Marie, où l'on découvre un Jésus, avec une relation très affectueuse avec Marie-Madeleine.
Oui, bien sûr, c'est-à-dire que c'est un Jésus qui est humain, un Jésus comme nous.
Qui embrasse sur la bouche, c'est ça?
Pourquoi pas, après tout.
C'est ce qui est.
Pourquoi ne pourrait-il pas le faire?
C'est ce qui est noté, c'est ça,
oui,
dans cet évangile, c'est ça. Hein.
On a ces représentations de Jésus auxquelles on peut davantage s'identifier et dont on va se sentir proche.
Mais alors là, précisément, Michael Langlois, on peut comprendre, d'une certaine façon, que la doctrine officielle ait voulu gommer ce Jésus-là, Michael Langlois, Florence Quentin.
Oui, parce que d'autant qu'il est dit dans cet évangile, par exemple, de Philippe, le Seigneur aimait Marie plus que tous les disciples et il l'embrassait souvent sur la bouche. Peut-être qu'il l'embrassait sur la bouche, mais on est peut-être dans une perspective, vous me direz si je me trompe, Michael, dans une perspective un peu gnostique où on sait que les baisers s'échangeaient sur la bouche parce qu'on transmet autre chose par le baiser. On transmet le souffle. Donc, est-ce que, on n'est pas dans le Da Vinci Code, est-ce que Jésus avait épousé Marie-Madeleine? Mais que ce soit peut-être, ce que les apocryphes nous disent, la première de ses disciples, c'est la vision, en tout cas, qui me semble très importante, que nous donne l'évangile de Philippe, par exemple.
Non, je pense qu'il y a des choses très intéressantes. Le rapport de Jésus aux femmes est abondamment développé dans les évangiles apocryphes, alors que dans le Nouveau Testament, dans les évangiles canoniques, on n'a pas grand-chose. Mais elles sont présentes malgré tout. Si on lit attentivement les évangiles canoniques, on se rend compte que Jésus est entouré de femmes, que des femmes le suivent, qu'elles pourvoient financièrement, il y a des mécènes, etc. Donc on se dit, pourquoi ne nous en dit-on pas plus sur ces questions-là? Et puis, c'est vrai, on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que Jésus, après tout, n'aurait pas le droit d'éprouver de l'affection pour l'une ou l'autre femme? Après tout, s'il est pleinement humain, même la doctrine chrétienne ne s'y oppose pas. On dit que, dans la doctrine chrétienne, on dit que Jésus est 100% homme et 100% Dieu. Il a une double nature et il a une nature humaine qui est pleine. Alors, on dit il a une nature humaine pleine, mais sans péché. Alors, ça pose la question, est-ce que c'est péché ou pas d'être proche d'une femme pour un homme? Évidemment, ça, c'est des considérations qui arrivent plusieurs siècles après, quand on commence à favoriser le célibat pour les prêtres, et éventuellement même à l'imposer. Évidemment, dans des conditions pareilles, ça devient de plus en plus difficile d'imaginer un Jésus qui soit marié. Mais après tout, les autres apôtres ont bien connu des femmes également.
Alors, qui étaient ces auteurs? de ces évangiles apocryphes. Qui sont-ils ?
Ah bah ils sont multiples et de milieux différents. On pourrait pas tous les regrouper. Faut pas tous les mettre dans le même panier. Ce qui est sûr, c'est que si quelqu'un écrit quelque chose, il y a une raison. On n'écrit pas sans raison dans l'Antiquité. Si on prend le temps de mettre quelque chose par écrit, on a quelque chose à dire. On a un message. Ce message, il a une teneur théologique. On croit quelque chose et on veut partager ce qu'on croit. On veut partager une doctrine particulière. Alors dans les milieux juifs, dans les milieux chrétiens, c'est vrai qu'il y a des groupes très différents, en particulier certains milieux ésotériques, on l'a mentionné tout à l'heure, gnostiques, c'est-à-dire des gens qui vont s'intéresser à une connaissance particulière, des milieux apocalyptiques. On a une révélation divine, une connaissance qu'on ne pourrait pas déduire par l'observation ou par la science, dirait-on aujourd'hui. Et évidemment, ces groupes-là voient dans des personnages comme, on parlait d'Enoch tout à l'heure, mais aussi de Jésus, voient des candidats idéaux pour pouvoir mettre dans leur bouche des paroles, des discours qu'on n'entendrait pas ailleurs.
Et c'est ça, et leurs écrits n'ont pas été retenu peut-être parce qu'il n'y a pas suffisamment dogmatique, Florence Quentin.
Et aussi parce que la gnose a été abandonnée, ça a été considéré aussi comme une hérésie.
Une hérésie. Alors, chrétienne, précisément, quelques mots sur la gnose. C'est quoi la gnose, au juste ?
Alors, oui. La gnose, enfin, si on s'en tient, enfin,
à la
gnose, ça veut dire connaissance. Donc, gnose ne veut pas dire forcément qu'on est gnostique. Mais si on est gnostique, on considère que le monde a été créé par un démiurge, on va dire, inférieur, un démiurge qui a mal fait les choses, et qu'il y a, au-delà de l'inconnaissable, dans l'inconnaissable, un Dieu qui serait parfait, mais que nous sommes soumis à ce régime, on va dire, de l'imperfection d'un démiurge terrestre. Ce qu'on retrouve effectivement, par exemple, dans le manichéisme du catharisme. Hein, on retrouve cette idée.
Oui. Alors, c'est vrai que les mouvements... Alors, c'est vrai que si on prend le terme gnose en lui-même, gnosis en grec, ça veut dire la connaissance. Et c'est vrai que ce sont des milieux qui s'attachent à une connaissance particulière, une connaissance révélée, une connaissance inaccessible au commun des mortels, dirait-on, au grand public. Et ces mouvements gnostiques dans le christianisme, il y a des précédents dans le judaïsme. Déjà à l'époque de Jésus, et même avant l'époque de Jésus, au tournant de notre ère, on a des milieux juifs qu'on pourrait... On va peut-être pas dire gnostique, parce que c'est vrai que quand on parle de la gnose dans le sens chrétien du terme, on a effectivement cette idée très précise d'un milieu assez spécifique. Mais disons des milieux gnostiques au sens plus large, on va dire pré-gnostique, ou des milieux qui s'intéressent également à une connaissance...
À la philosophie aussi.
Et une philosophie, donc on a des milieux qui vont être plutôt... influencé par l'hellénisme, en Égypte notamment, et c'est là qu'on va retrouver d'une part une littérature juive de type néo-platonicienne, ou avec des interprétations allégoriques des textes de la Bible hébraïque. On va trouver ça chez Philon d'Alexandrie, par exemple, dans la communauté juive d'Alexandrie, et dans la communauté chrétienne d'Alexandrie. On va trouver beaucoup de l'essentiel de la littérature gnostique, les manuscrits de Nag Hammadi viennent d'Égypte. Et puis également, peut-être pas du côté de l'Occident, mais du côté de l'Orient, également des traditions qui remontent du côté de la Mésopotamie, où on a également toute une littérature qui se développe, on a une astrologie qui est abondamment développée, etc. Donc on s'intéresse aux divinités, on s'intéresse aux anges, et là on va trouver des milieux qu'on va qualifier d'apocalyptiques, c'est-à-dire des milieux qui ont une connaissance qui leur a été révélée. Donc ils ont cette connaissance, on pourrait parler de gnose également, si on emploie le terme grec, ils ont cette connaissance qui leur a été révélée et qu'ils développent entre eux, au sein de leur communauté.
Vous évoquez donc les manuscrits de Nag Hammadi, découverts en 1945, donc des manuscrits écrits en copte, qui ont été découverts donc en Haute-Égypte, qui sont donc des manuscrits d'écrits apocryphes. Que nous ont-ils révélé ?
Alors oui, effectivement, c'est des manuscrits qui ont été découverts au XXe siècle. Le XXe siècle a été vraiment... le milieu du XXe siècle a été une période... très importante. On a découvert d'une part les manuscrits de Nag Hammadi, d'autre part les manuscrits de la Mer Morte.
C'est
très intéressant. À quelques années d'intervalle, on a cette documentation nouvelle. Parfois, certains livres dont on connaissait l'existence, mais on n'avait pas accès au texte. Et là, pour la première fois, on a accès au texte. Alors, pas toujours dans la langue d'origine. Souvent, on peut supposer que certains ont été rédigés en grec, par exemple, puis traduits en copte. Toujours est-il qu'au moins on peut lire ces textes. Et bon nombre d'apocryphes qu'on a cités tout à l'heure, d'évangiles apocryphes notamment, ont été découverts à Nag Hammadi, des manuscrits qui sont centrés sur tel ou tel apôtre. On va s'intéresser à Pierre, on va s'intéresser à Judas par exemple. Il y a des choses fabuleuses dans ces manuscrits.
Oui, précisément, Judas apparaît sous un jour nouveau, Florence Quentin.
Oui, parce qu'il n'y a pas très longtemps qu'on a traduit cet évangile. Et Judas apparaît comme quelqu'un qui est un peu aussi un disciple privilégié, très très proche du premier cercle de Jésus. Et cet évangile nous dit qu'il fait l'objet de révélations que les autres disciples ne peuvent comprendre. Mais il ne sera pas sauvé à cause de sa trahison. En revanche, on peut l'interpréter aussi comme l'homme de la situation, l'homme par lequel il n'y a pas de rédemption, s'il n'y a pas de trahison. Donc c'est la personne aussi, c'est l'initié suprême qui pourrait se sacrifier pour qu'il y ait justement cette rédemption du Christ.
Florence Quentin, dans ce dossier donc, du monde des religions sur les écrits apocryphes, vous mettez en avant l'art, la place de l'art qui a bien rendu compte des écrits apocryphes.
Oui, parce qu'il nous a semblé intéressant de montrer que, à leur insu, quelque part, parce qu'on avait oublié ces évangiles apocryphes, les peintres ont été complètement influencés, ils ont été inspirés par ces évangiles apocryphes, notamment tous ces épisodes dont on parlait, comme le très beau tableau du Titien, où on voit la Vierge toute auréolée de lumière qui se présente devant les prêtres sur les marches du temple. C'est très très beau. Ça, on n'en parle pas dans les canoniques. On voit aussi des représentations de la Vierge enceinte portant l'enfant. On voit en transparence dans son ventre, cet enfant. On voit beaucoup de saintes familles avec Sainte Anne. Sainte Anne qui a fait l'objet d'un culte à Sainte Anne d'Auray, par exemple en Bretagne, dont on ne parle pas du tout dans les canoniques.
Et il y a tout un tas de références aux apocryphes dans l'art chrétien. Quand on voit les références aux quatre archanges, on a leurs noms qui sont signalés souvent en bas de leur représentation et on se dit, tiens, mais d'où viennent ces noms? Certains sont mentionnés dans la Bible, mais d'autres n'apparaissent même pas. Même le chiffre 4 n'est pas connu dans la Bible. En fait, il faut aller regarder dans le livre d'Enoch pour les avoir. Ou les trois rois mages qui viennent rendre visite à Jésus, au bébé, eh bien, on les voit, ils sont représentés, on connaît là encore leurs noms, et pourtant, les noms ne sont pas signalés dans les évangiles canoniques.
Alors, comment expliquez-vous précisément cela?
Parce qu'ils sont dans les apocryphes, et ça veut dire que la littérature apocryphe, elle est connue. Elle est connue, et les traditions apocryphes, en fait, elles sont transmises de génération en génération parmi les croyants, ceux-là même qui ne savent peut-être même pas qu'en fait, ces traditions, elles sont apocryphes. Les juifs, de la même manière, vont célébrer la fête de Hanouka sans peut-être savoir que cette fête n'est pas mentionnée dans la Bible hébraïque.
Pour Hanouka apocryphe, si je puis dire, c'est un chandelier avec 9 branches,
oui, absolument.
Ça
oui,
et pas 7 branches.
Oui, absolument.
Pourquoi?
Oui. Alors, c'est à cause du nombre de jours. Il y a toute la petite histoire qui est racontée dans le livre des Maccabées, alors qu'il lui a été canonisé par un certain nombre d'églises chrétiennes, mais pas dans le judaïsme orthodoxe, et qui raconte que lorsque le Judas Maccabée a repris le temple, eh bien, on a rallumé le feu et on manquait d'huile, mais le feu a brûlé comme ça pendant toute une semaine. C'est une sorte de miracle, et donc on commémore ce miracle.
Alors pour conclure, Miguel Langlois, pour conclure, Florence Quentin, est-ce qu'il faut en déduire que ce dossier, c'est une sorte d'appel à lire, effectivement, à lire ces écrits apocryphes, et puis pourquoi pas aussi un appel à l'Église en disant, voilà, retrouvons notre patrimoine, ne l'oublions pas.
Oui, notre patrimoine commun, et puis toutes ces lacunes, les combler, et puis c'est une invitation, effectivement, à relire ces textes qui sont tout à fait extraordinaires. Et on a fait aussi un entretien avec Jean-Daniel Kessely dans ce dossier qui dit qu'effectivement, l'Église devrait s'interroger sur le succès de ces apocryphes, puisqu'il y a quelque chose qui, vous voyez, au-delà des canoniques, les fidèles cherchent quelque chose, cherchent des questions, cherchent des réponses à qu'ils n'ont pas à travers les canoniques.
Donc, et on les trouve, là.
Et
là,
on les trouve. Bien sûr, on les trouve.
Et oui, c'est très intéressant quand on se rend compte que certaines églises n'ont pas tranché la question du canon. Des églises d'Orient, par exemple, n'ont pas établi officiellement, voilà, les listes que nous recevons, que nous acceptons, et ceux que nous rejetons.
Et pour quelle raison, justement?
Précisément parce qu'on n'a pas ressenti le besoin de fermer le canon, de dire... De signaler les livres qu'on reconnaît d'accord, mais de dire que la liste des livres, elle est close, qu'elle est définitive, qu'on ne pourra plus la faire évoluer. Certaines églises n'ont pas ressenti le besoin en disant, mais pourquoi pas garder une certaine ouverture? Pourquoi ne pas laisser la porte ouverte à l'inclusion de nouveaux livres, après tout, dans la Bible? Et je sais de sources sûres que ce sont des questions qui se posent même au sein de l'Église catholique romaine. Certains théologiens, et l'Église catholique a le deutérocanon, c'est-à-dire le canon en plus de la liste des livres de la Bible hébraïque, eh bien certains théologiens posent la question du tritocanon. Pourrait-on un jour, peut-être à l'occasion d'un concile, au Vatican III, j'en sais rien, pourquoi pas un
on
jour...
On en parle actuellement, oui.
Pourquoi pas un jour ajouter de nouveaux livres dans la Bible? Pourquoi pas? La question se pose.
La révélation qui continue, une révélation marche en fait. Merci Michael Langlois, merci Florence Quentin pour la description de ce dossier du monde des religions consacré aux écrits apocryphes. Fin de Religion du Monde, présentée par Geneviève Delru et réalisée par Cécile Bonici. On se retrouve dimanche prochain. Bonne semaine à tous.